8h13, votre invité Sonia Mabrouk est député européen.
Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour François-Xavier Bellamy.
Bonjour.
Tandis que le monde rend hommage à la reine dans une parenthèse sincèrement émue, la guerre, elle, ne connaît pas de parenthèse. Elle se poursuit sur le sol européen avec une contre-offensive, une poussée ukrainienne qui progresse notamment dans la région de Kharkiv. Est-ce que l'Ukraine peut gagner? Est-ce que Poutine peut perdre?
Je suis très loin d'être un spécialiste de géopolitique et je me garderai de faire des déclarations trop hâtives sur ce sujet, mais en effet, il semble que des événements très importants soient en train de se passer en Ukraine. Et ce que j'espère, pour ma part, c'est que dans la résolution de ce conflit, nous verrons s'imposer le droit sur la force. Parce que, au fond, c'est de cela qu'il est question. Dans la manière dont Vladimir Poutine a décidé de manière unilatérale une agression complètement injustifiée de l'Ukraine, il a voulu faire prévaloir non seulement les intérêts de la Russie, mais aussi une certaine idée des rapports internationaux qui est fondée sur le retour de la violence qui primerait sur le droit des États à leur intégrité territoriale, sur le droit des peuples à déterminer leur destin. Et je pense qu'il faut se souvenir de cette leçon. Nous avons été nombreux et nous avons eu raison à dire qu'il était nécessaire de soutenir l'Ukraine dans ce combat. Il faut aussi que sur d'autres terrains, et je pense en particulier aujourd'hui à des lieux où là encore les plaques tectoniques géopolitiques sont en train de bouger très vite, je pense par exemple à la frontière entre l'Arménie, le Haut-Karabakh et puis l'Azerbaïdjan, on voit qu'il y a des mouvements de troupes importants en ce moment, des escarmouches qui se répètent provoquées par l'Azerbaïdjan, et bien là aussi et partout d'une certaine manière dans le monde, on a beaucoup parlé de Taïwan cet été, il faut rappeler ces principes fondamentaux du droit international que sont notamment l'intégrité territoriale des États et la liberté des peuples souverains de décider de leur destin. Je crois que l'Union européenne en particulier n'a pas le droit d'avoir des indignations à géométrie variable sur des sujets aussi importants.
Guerre sur le terrain et bataille énergétique qui se poursuit. Est-elle due à la guerre en Ukraine, d'ailleurs cette crise énergétique, ou au choix de nos gouvernants en Europe et plus singulièrement en France également?
En France en particulier, et là il y a évidemment une responsabilité immense de nos gouvernants et en particulier d'Emmanuel Macron et de ses gouvernements successifs. Quand Emmanuel Macron cherche à nous faire croire que au fond les coupures d'électricité qui peut-être se dessine pour cet hiver, l'explosion des factures d'énergie, en particulier pour les entreprises aujourd'hui qui ne sont pas protégées par le bouclier tarifaire. Quand Emmanuel Macron cherche à nous faire croire que c'est le prix de nos valeurs et que c'est à cause de la guerre, eh bien c'est évidemment un gigantesque mensonge. La vérité, c'est que...
Un mensonge ?
Oui, c'est un mensonge.
Tout cela n'est pas lié à la guerre en Ukraine.
Je peux vous en donner une preuve très simple, c'est qu'il y a 2 ans, au Parlement européen, j'ai été intervenu, mais je n'étais pas le seul, je ne veux pas m'en donner le mérite, mais j'ai été intervenu pour dire que nous allions connaître sur le sol européen et en France en particulier des coupures d'électricité et que nous allions connaître des pénuries. Elles sont arrivées plus vite que prévu, pas à cause de la guerre en Ukraine, à cause de l'état très dégradé de notre parc nucléaire aujourd'hui, à cause de la fermeture de la centrale de Fessenheim. Et moi, je pense en particulier à tous les ouvriers, à tous les techniciens, aux ingénieurs de Fessenheim, qui sont des gens qui travaillent avec un souci incroyable d'exigence et d'intégrité, et qui doivent être écœurés aujourd'hui, alors que la France va rentrer dans une période de grande tension sur le plan de son alimentation électrique, qui doivent être écœurés d'entendre le président de la République qui se défausse de sa responsabilité.
C'est lui. C'est-à-dire, François-Xavier Bellamy, qu'en ce moment, quand il est dit que tout cela est dû à la guerre en Ukraine, que c'est le prix finalement que nous devons payer pour la démocratie, pour nos valeurs, Vous dites que c'est un mensonge, c'est le mot que vous avez utilisé.
Oui, c'est un mensonge. Bien sûr, évidemment, la guerre crée une tension sur l'approvisionnement énergétique de l'Union européenne.
De
c'est
fait,
une certitude.
Bien sûr.
C'est un fait. Mais d'abord, cette guerre, elle devait être anticipée comme faisant partie des événements qu'il faut toujours avoir en tête. Quand la France a construit, depuis maintenant plus de 10 ans, sa stratégie énergétique en ne donnant aucune marge à son système énergétique. C'est-à-dire, au fond, notre système, il fonctionne sans avoir aucune marge de sécurité. Eh bien, c'était irresponsable de se projeter dans un monde où on n'aurait jamais à faire face à des événements de cette nature. Et deuxièmement, encore une fois, je le redis, si nous allons manquer d'électricité cet hiver, ce n'est pas du tout à cause de la situation en Ukraine. Si nous allons manquer d'électricité, c'est parce que le président de la République,
oui,
depuis
François
maintenant...
Blaine, d'accord, mais quand on regarde dans le rétroviseur, vous pointez du doigt Emmanuel Macron, mais j'ai en tête François Mitterrand qui a fermé la centrale de Plogoff, Lionel Jospin qui a fermé Superphénix, François Hollande qui a entamé la fermeture de Fessenheim. Emmanuel Macron
qu'il a
va achever ce projet, mais
il faut répéter ça, c'est très important. Quand Emmanuel Macron dit sur Fessenheim qu'on ne vienne pas me chercher, bien je crois que c'est très très grave, parce qu'en réalité, c'est sa responsabilité. Tous ceux qui suivent ce sujet vous diront, et c'est une certitude absolue, que la centrale de Fessenheim, au moment où la décision de sa fermeture est confirmée par Emmanuel Macron, était en état de fonctionner et qu'il aurait pu la maintenir. Donc je dis seulement qu'il aurait dû assumer le choix qu'il a fait et l'assumer très tranquillement, en assumant même, pourquoi pas, de s'être trompé. La politique se grandirait à reconnaître parfois ses erreurs. Et par ailleurs, fermer des centrales, ça n'est pas du tout un problème. Évidemment, il faut fermer des centrales, on ne peut pas les prolonger indéfiniment, à condition de s'inscrire justement dans une vraie planification de la reconstitution des capacités perdues. Depuis des années, nous fermons des capacités pilotables sans en ouvrir d'autres.
François-Xavier Bellamy, et aujourd'hui, parce que l'urgence, là, vous parlez de planification à long terme. L'Union européenne, la Commission européenne plus précisément, veut plafonner les cours du gaz. Elle veut aussi un mécanisme pour plafonner les revenus des producteurs d'électricité. Mais ils ne sont pas d'accord sur la faisabilité. Le principe est OK, pas la faisabilité.
Il faut prendre en urgence des mesures pour éviter l'envolée des prix de l'énergie. Je le redis, aujourd'hui, vous avez des entreprises, moi j'entends de partout, j'étais dans le Beaujolais il y a quelques jours pour la fin des vendanges, j'entends des agriculteurs, des arboriculteurs, j'entends des entreprises, des petites entreprises industrielles qui sont face à l'explosion de leurs factures d'énergie et qui vont faire faillite, qui vont mettre la clé sous la porte si on ne fait rien. Donc il faut agir évidemment dans l'urgence. Mais sur le moyen et le long terme, la chose la plus importante, ça n'est pas
vous, aux manettes, qu'auriez-vous fait avec
la situation
qui est la nôtre ?
Il faut bien sûr, effectivement, prendre des mesures pour plafonner les prix de l'énergie, pour empêcher leur envolée et pour empêcher aussi la spéculation qui accompagne la crise que nous connaissons aujourd'hui. Mais sur le long terme, on aurait tort de se concentrer sur la question du marché. Le sujet n'est pas la réforme du marché, même du marché européen.
Quel est-il alors ?
Le sujet, c'est la production énergétique. Si vous régulez le marché, vous pouvez décider ce que vous voulez, vous pouvez décider de fixer des prix arbitrairement, mais si vous n'avez pas assez de production, eh bien vous n'empêcherez pas la réalité des tensions qui vont exister cet hiver, mais qui vont durer aussi pendant les années qui viennent, à moins que nous ne prenions des mesures urgentes pour relancer notre capacité de production d'énergie.
Le débat sur le nucléaire fracture la classe politique française, un peu entre droite et gauche, sauf pour le communiste Fabien Roussel, défenseur devant l'éternel, si je puis dire, du nucléaire. Et ce n'est pas le seul sujet qui le différencie des insoumis et socialistes. Je voulais vous faire réagir ce matin, François-Xavier Bellamy, puisque le leader communiste a provoqué un tollé avec un déferlement de critiques en défendant la gauche du travail face à la gauche des allocs à la fête du Luma. Vous lui apportez votre soutien politique ?
En tous les cas, je crois que Fabien Roussel, par la tempête qu'il provoque, nous donne l'occasion de voir le symptôme de toutes les folies de la gauche. Une gauche qui a complètement perdu sa boussole. Sur le nucléaire, vous l'évoquiez, mais aussi sur le travail. Cette gauche ne défend plus le travail. Or, ça a été le grand legs historique de la gauche, que de défendre la dignité du travail. Et moi, je crois que Fabien Roussel touche du doigt un problème dramatique dans notre pays lorsque il montre, par les réactions qu'il suscite, que la gauche aujourd'hui préfère défendre les allocations sociales que le travail. C'est une folie. Parce que le travail, ça n'est pas seulement le moyen de subvenir à ses besoins. Le travail, c'est ce dans quoi nous pouvons accomplir nos propres talents, ce dans quoi nous pouvons nous réaliser, à condition que le travail soit humain, précisément. Et ça, c'est le rôle du politique, de garantir que les conditions de travail soient humaines et dignes. Mais dans ce cadre-là, le travail est un lieu dans lequel on se réalise.
Alors,
dans lequel
quelle gauche
on
incarne Fabien Roussel en disant cela ?
Mais il incarne ce que la gauche aurait toujours dû être, c'est-à-dire la gauche qui défend précisément
la dignité des
travailleurs.
Certains lui disent que c'est la
droite dans ce cas-là. Mais je ne vois pas en quoi ce serait être de gauche que de condamner des gens à vivre toute leur vie de l'assistance. Et cette situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est celle qui plombe notre pays, c'est celle qui plombe sa souveraineté, notre capacité de maîtriser notre destin. Aujourd'hui, rendez-vous compte, vous avez toute la gauche unie qui s'attaque à Fabien Roussel pour défendre les allocations sociales, alors que dans notre pays, il y a 3 millions de chômeurs, 3 millions de chômeurs au sens de Pôle emploi, 3 millions de chômeurs, Sonia Babrouk. Et moi, j'entends partout, dans les vignes du Beaujolais, il y a deux jours, comme dans la moindre entreprise de France, chez les artisans, des commerçants, j'entends partout le même cri, je n'arrive pas à recruter, on n'arrive plus à recruter dans ce pays, on manque de bras partout, on manque de travailleurs partout. Eh bien, la gauche, dans cette situation, elle choisit de défendre un modèle fondé sur la consommation alimentée par les revenus de l'aide publique financés par le déficit, plutôt que de nous permettre de retrouver le sens de la dignité du travail et de ce que le travail apporte, encore une fois, à une existence humaine. Écoutez, c'est pas la littérature de droite. Lisez Proudhon, mais je dis à tous mes amis de gauche, lisez Proudhon. Le travail, c'est ce par quoi l'être humain s'accomplit. Alors évidemment, il faut un système d'aide sociale pour ceux qui ne peuvent plus travailler, bien sûr. On en a évidemment besoin. Il faut un système d'aide sociale pour ceux qui sont temporairement frappés par le fait qu'ils ont perdu leur emploi. Mais la vérité de notre système politique aujourd'hui, c'est qu'il est fondé sur cette espèce de folie par laquelle on incite les gens à ne pas
travailler.
Mais jusqu'où
faut-il aller par exemple, hier, dans le journal du dimanche, un député LR, Alexandre Vincent Day, proposait la mise en place d'un service d'accès à la citoyenneté des droits, autrement dit, pour accéder aux droits, pour accéder aux aides, au RSA. Il faut faire une sorte de service citoyen entre 16 et 26 ans, donner 3 mois en fait. Offert au pays. Vous êtes pour
Il va y avoir un sujet majeur parce qu'il va y avoir une réforme de l'assurance chômage bientôt qui va être discutée au Parlement. Et je crois que notre famille politique va défendre, elle doit défendre, et je partage ce sentiment avec Alexandre Vincent Day, le fait qu'on doit permettre à chacun de retourner vers le travail. Et notamment quand on est au RSA, il n'y a aucune raison qu'on soit condamné à une espèce de passivité ou d'inertie. On doit pouvoir avoir l'occasion soit de se former, soit de contribuer par son travail à la solidarité nationale. Et je crois que c'est vraiment fondamental, non seulement parce que c'est l'occasion de rééquilibrer notre modèle social, mais aussi parce que c'est l'occasion de sortir tous ceux qui sont pour un moment privés de travail, de les sortir de l'enlisement dans lequel cela peut parfois nous conduire. J'ai été président d'une mission locale pendant des années. Je me suis occupé de jeunes qui cherchaient précisément du travail ou qui justement n'en cherchaient pas. Et ce sont ces jeunes-là qu'il faut aller rechercher. Le taux de chômage des jeunes en particulier, c'est de ça que parle Alexandre Vincent Day, il est dramatique dans notre pays. Et moi, encore une fois, je le redis, quand Fabien Roussel parle de la dignité du travail, Alexis Corbière lui répond qu'il faut surveiller son langage. Je crois qu'il y a là une sorte de schizophrénie.
Dites-nous,
typiquement.
Vous ne lui donnez pas un peu le baiser de la mort politique ce matin en le soutenant au micro d'Europe 1
hein. Non, mais Fabien Roussel est communiste. Écoutez, je ne partage pas son opinion, je ne soutiens pas Fabien Roussel. Je dis seulement qu'il est le symptôme.
Pas vous
par sa déclaration. Non, mais effectivement, on a des désaccords majeurs avec Fabien Roussel, mais par la lucidité de son diagnostic, il montre à quel point.
Parlons des alliances. Elles peuvent être parfois entre droite et gauche, elles peuvent être aussi entre droite classique et droite radicale. Disons, est-ce que vous regardez ce matin ce qui se passe en Suède attentivement ?
Bien sûr.
Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je rappelle qu'il y a des élections législatives, que la coalition entre droite classique et droite radicale est en passe peut-être de conquérir ensemble le pouvoir après, je crois, 7 ou 8 années de gauche. Ça peut être un exemple pour la droite française.
En tous les cas, pour la droite française, il y a un objectif qui est majeur, c'est de réussir à rassembler de nouveau tous les électeurs de droite.
Pas ma question, François-Xavier.
Non, mais
les
électeurs, je vous réponds très directement. Je suis au Parlement européen tous les jours, donc je vois à quel point les systèmes électoraux sont complètement différents. Nous n'avons pas en France, d'habitude, des coalitions. On ne se présente pas aux élections avec des coalitions.
Vous avez perdu 3 fois au présidentiel. Est-ce qu'à un moment,
C'est pour ça que je vous le redis, Sonia Mabrouk, très clairement, le défi pour la droite française, c'est aussi un enjeu de l'élection interne qui nous attend dans quelques semaines.
Le défi pour
la droite française, c'est de réussir à réunir de nouveau tous les électeurs de droite. Et moi, oui,
Monsieur Bellamy,
je l'ai déjà dit à votre micro.
Là, vous faites de la langue de bois.
Pas
je m'en doute
tout.
Qu'il faut réunir les électeurs de droite, mais pour les réunir ces électeurs de droite, comment parler à tous ces électeurs, est-ce que vraiment vous dites ce qui se passe en Suède, ça ne peut pas, ça n'arrivera pas en France, il est impossible
mais
de travailler avec une droite plus radicale.
Non mais encore une fois, en France, nous n'avons pas du tout l'habitude des coalitions. On ne se présente pas ensemble à des élections, ce que font nos voisins européens.
La gauche et la NUPES l'a fait.
Non, la NUPES ne l'a pas fait. Elle s'est présentée à l'élection présidentielle avec chacun son candidat. Et ensuite, ils ont construit une alliance parlementaire, mais ça n'a rien à voir avec ce qui est en train de se passer en Suède. La réalité de la situation en Suède, comme celle qui se déroule en Italie, comme le système électoral par exemple en Allemagne, tout cela est complètement différent de notre culture politique en France. Donc nous avons le devoir de reconstruire notre famille politique. On ne va pas commencer en
avec
disant qu'on se
où
dilue
sont vos
ou
idées
qu'on se
où
dissout
sont vos
quelque
nouveautés
part.
Où est votre
mais
projet
ce qui compte, c'est de réunir tous les électeurs
mais
de droite
comment,
et pour
Monsieur
ça,
Bellamy,
d'avoir un projet qui soit enfin fidèle à ce qu'attendent les électeurs.
Mais avec qui ? Alors, vous avez choisi de soutenir Bruno Retailleau. En quoi est-il davantage l'homme de la situation qu'Éric Ciotti à vos yeux ?
D'abord, soutenir un candidat, ça n'est pas critiquer les autres, surtout dans une élection interne.
C'était
je pense que Bruno Retailleau a la grande qualité d'être capable de faire le travail intellectuel de refondation indispensable à la droite. Parce que vous posez la question du comment. Et moi, je crois que la question du comment pour la droite en France, ça n'est pas d'abord un sujet d'appareil, ça n'est pas d'abord un sujet de construction électorale. Il faut, avant que les élections en arrivent, que nous reconstituions notre proposition sur le plan des idées. C'est le sujet fondamental. Et le deuxième enjeu majeur, et moi je soutiens Bruno Retailleau parce qu'il est capable de faire cela, c'est de rendre la parole aux adhérents de la droite, et pas seulement aux adhérents, aux électeurs qui attendent d'être représentés par la droite.
Ce sont des phrases qu'on entend depuis
rendre
la parole aux militants, parler à tous les électeurs de la droite.
Non, ça fait trop longtemps, et je vois de l'intérieur de ce parti, ça fait trop longtemps, je le dis sans aucune langue de bois, qu'on n'a pas assez travaillé sur le fond, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas produit une idée nouvelle, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas renouvelé la manière de faire nos propositions.
Vous avez été candidat pourtant aux européennes.
Mais j'ai tenté de contribuer autant que je le pouvais, mais je vois bien à quel point notre parti doit, et c'est le parti qui doit faire ce travail-là. Et puis la deuxième dimension, c'est je vois bien aussi à quel point, sur beaucoup de sujets, je pense à des débats qu'on avait eus, y compris à votre micro, les investitures par exemple dans la région sud, sur beaucoup de sujets qui ont contribué au fond au discrédit dont souffre notre famille politique aujourd'hui, eh bien on ne donne pas la parole aux adhérents, ni plus largement aux électeurs de droite. C'est comme, vous voyez, si on avait un parti qui ne cherchait plus assez à représenter ses propres électeurs, et je crois que le défi est là.
En un mot, on a parlé de la rentrée, elle a été marquée aussi par des débats au dépôt polémiques sur des barbecues, des jets privés et autres. Qu'inspirent ces débats aux professeurs de philosophie? Est-ce que parfois vous ne vous dites pas qu'il vaut mieux écrire des livres de philo que de parler de tels sujets? Ouais, c'est une vraie question.
L'un n'empêche pas l'autre. D'ailleurs, je reprends
c'est
les soirées de la
écart,
philo
alors.
Au théâtre Héberto à la fin du mois de septembre. Mais je crois que la politique aussi a besoin peut-être de retrouver le sens des vrais sujets. Et au fond, ce que m'inspire ces débats, c'est d'abord le sentiment d'une très grande immaturité de notre débat public. On est devant des défis qui sont majeurs et on se concentre sur des détails au lieu de parler de l'essentiel. Et je pense que c'est ce qui fait, on le voit d'ailleurs dans la déploration même de Platon et d'Aristote sur la vie de la démocratie athénienne il y a 24 siècles de cela, ce qui fait la fragilité d'une démocratie, c'est le moment où les citoyens ne sont plus capables de penser ensemble les vrais sujets et de donner leur vraie importance aux enjeux essentiels auxquels nous sommes confrontés.
Merci François-Xavier Bellamy, une belle conclusion. Au-delà des clivages politiques, pensez à ces vrais sujets. Merci d'avoir été notre invité ce matin et bonne journée à vous.
Merci beaucoup.